huitième vendredi de manifestation en Algérie, on entend « le peuple veut la chute de Gaïd ». Salah, à quelques jours de l'élection algérienne, et alors que les Algériens sont donc dans la rue, que demande le peuple? Comment l'Algérie peut-elle sortir de l'impasse et qu'attendre du scrutin du 12 décembre? Pour en parler, nous sommes en compagnie de l'historien et arabisant Jean-Pierre Finu. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez l'ouvrage « Algérie, une nouvelle indépendance » aux éditions du Seuil. Les manifestations ne cessent pas. Que demande aujourd'hui ce peuple qui est dans la rue, Jean-Pierre?
Effectivement, c'est la nouvelle indépendance. Ils le disent de manière très claire, très consciente, très réfléchie. 1962, ça a été l'indépendance du territoire, après une guerre effroyable de libération contre le colonialisme français. Immédiatement, il y a eu détournement de cette indépendance par une clique militaire, ce qu'on appelle l'armée des frontières, qui est venue du Maroc et de Tunisie et qui a écrasé la résistance intérieure et jeté les bases du régime militaire toujours en place. Alors 2019, ils veulent l'indépendance du peuple. Ils veulent que, une fois pour toutes, leur droit à l'autodétermination, qui a été dénié par ceux-là même qui prétendaient les avoir libérés, soit reconnu.
Et alors justement, où en est-on par rapport à cette demande? Le pouvoir algérien est particulièrement opaque. Qu'est-ce que l'on peut dire, Jean-Pierre Finu, sur le fonctionnement de ce pouvoir et sur ses véritables velléités de changement?
Les Algériens ont employé une expression pour décrire ceux qui les dirigent. Ce sont les décideurs. Alors, ce terme un peu euphémistique renvoie en fait à la réalité d'une clique militaire qui n'a jamais rendu de compte au pouvoir civil. Pendant les 20 ans que Bouteflika est demeuré à la présidence, jusqu'à ce que la contestation obtienne sa démission en avril dernier, les décideurs étaient dans une situation presque idéale. Bouteflika occupait le terrain avec ses caprices, ses maladies, ses trafics, et eux, derrière, géraient le pays. Mmh. Et là, en fait, ils se retrouvent confrontés à la fin des masques. Ils ont été obligés de sacrifier Bouteflika sous la pression populaire. Le président, par intérim, Abdelkader Ben Salah, n'avait un mandat que de 90 jours pour organiser la succession. Il en a été incapable parce que les décideurs ont placé la barre trop haut. Ils voulaient restaurer purement et simplement le statu quo. Et ça, les Algériennes et les Algériens ne le supportent plus. Donc on a un vrai bras de fer, mais dans ce bras de fer où les décideurs croient détenir l'ensemble des attributs du pouvoir, et le pouvoir militaire, le pouvoir de la répression, ils l'ont, il n'y a aucun doute. Mais dans ce bras de fer, la population a remporté la victoire symbolique. Elle s'est réappropriée le 5 juillet, la fête nationale de l'indépendance, le 1er novembre, l'anniversaire du déclenchement de la lutte de libération en 1954, tout cela en refusant le scrutin que veut lui organiser, si j'ose dire, à l'ancienne, le régime toujours en place.
Jean-Pierre Filieu, vous publiez donc aujourd'hui « Algérie, une nouvelle indépendance » aux éditions du Seuil. Vous êtes également un spécialiste de la Syrie. Quels sont les risques qu'il y ait en Algérie une évolution à la syrienne, puisque la guerre civile en Syrie a débuté parce qu'il y avait une révolution?
Une révolution pacifique, et d'ailleurs le même slogan « Silmiya, Silmiya, pacifique, pacifique » a retenti dès le début de la contestation algérienne, le 22 février dernier. Ce qui est extraordinaire, c'est que 9 mois plus tard, la discipline collective est restée impressionnante. On parle de centaines de milliers de manifestants au moins tous les vendredis dans des dizaines de villes du pays. Pour les dates symboliques que j'évoquais, on dépasse certainement les millions, avec une absence d'incident, un sens des responsabilités, un refus des provocations policières qui est impressionnant. Il est évident que les Algériens ont appris des éléments les plus tragiques à la fois de leur propre histoire. On pense à la décennie noire contre le terrorisme dans les années 90, mais aussi aux échecs des expériences arabes, la Syrie, vous l'avez évoqué, mais aussi l'Égypte, ils n'ont aucune envie que, de même que Moubarak a été remplacé par Morsi, qui a été remplacé par Sissi, ben on remplace Bouteflika par Ben Salah, puis après par je ne sais qui. Au fond, ils se moquent de qui sera leur prochain président. Ils veulent, une fois pour toutes, reprendre leur destin en main, en remettant à plat ce système qui les a tellement marginalisés.
Et qu'est-ce qui pourrait empêcher l'Algérie de devenir notre Syrie, notre Égypte, puisque finalement il n'y a que la révolution tunisienne qui a donné véritablement naissance à une démocratie, Jean-Pierre Filiu.
Une transition démocratique, en effet. Je crois que le principal atout de l'Algérie, on dit souvent que c'est son pétrole, hein, ses ressources formidables en hydrocarbures, je crois plutôt que c'est l'extraordinaire patriotisme du peuple algérien. Et on voit bien que dans durant les 9 mois écoulés, eh bien la population, ce qu'on appelle le Hirak, le mouvement, hein, cette remise en mouvement de la société algérienne après des années d'apparente léthargie, elle est arrivée à reprendre les symboles et l'énergie formidable du patriotisme algérien. Et elle l'oppose au régime qui, jusqu'à présent, avait un discours relativement bien rodé. Nous sommes les héritiers de la guerre de libération. C'était faux. En fait, ils étaient les héritiers de ceux qui avaient éliminé les héros de la guerre de libération. Mais bon, ça marchait depuis un demi-siècle. Et donc, on opposait à toute contestation ce tabou la lutte anti-française. Et bien là, maintenant, ils disent, les vrais patriotes, c'est nous. Les défenseurs de l'Algérie, de son peuple, de son honneur, de son avenir, c'est nous. Ils l'ont fait de manière non violente et ils ont obligé les militaires qui jusqu'à présent avaient une façade civile très confortable pour eux à tomber le masque et à s'afficher comme les maîtres qu'ils sont du pays.
Ce que vous expliquez, Jean-Pierre Filiu, c'est que le fléau algérien, c'était la corruption qui était une mainmise d'un clan sur les ressources du pays, sur l'import-export, avec aujourd'hui des jugements. Qu'est-ce qui signifie ces jugements? Est-ce qu'ils signifient que tous ceux qui ont été corrompus, qui ont fabriqué ce système, sont aujourd'hui en passe d'être jugés, ou bien qu'il y a des règlements de compte à l'intérieur des décideurs?
Alors, il y a un terme très populaire en Algérie, c'est Ahsab, c'est la bande, hein, la bande de type mafieux. Donc chacun accuse l'autre d'être la bande. La bande, c'est l'autre. Donc on a évidemment un règlement de compte entre Gaït Salah, donc chef d'état-major, pas vraiment l'homme du renouveau, hein, il est là depuis une quinzaine d'années, et malgré son titre officiel, il n'est que vice-ministre. En fait, c'est lui qui gère le pays et qui donne entre autres le tempo de ses purges, qui ont touché aussi bien des anciens premiers ministres que des grands patrons, que des généraux à la retraite. On fait très attention chez les décideurs à ne jamais mettre en cause des généraux d'active.
Pourquoi ?
Parce que là aussi, hein, ça provoquerait des tensions à l'intérieur des dits décideurs. Donc il y a toute une série de règles non décrites. Et en même temps, on a eu un procès qu'on annonçait retentissant, le frère du président déchu Bouteflika, deux anciens chefs de la sécurité militaire.
Lequel frère était accusé d'être le vrai président ?
En tout cas, monsieur 10%, monsieur frère, monsieur appelez-le comme on veut, c'est-à-dire l'intermédiaire obligé pour tous les grands contrats. De là à dire qu'il avait un pouvoir politique, j'en doute. Mais un pouvoir de préemption, certainement. Ce procès s'est déroulé à Blida, dans un tribunal militaire, a été totalement bâclé avec des sentences qui ont été proclamées dans la foulée. Donc, on voit bien que même dans ces purges, le régime refuse absolument que toute la lumière soit faite, car il est évident qu'un tel degré de corruption impliquait des complicités sans doute aujourd'hui actives. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand en 2011, Ben Ali est renversé en Tunisie, l'Algérie trouve en quelques semaines 30 milliards d'euros, vous m'avez entendu, 30 milliards d'euros pour redistribuer à différentes couches de la population et ainsi littéralement acheter la paix sociale. Ça veut dire que l'argent, il coule, il est colossal, mais que les circuits de détournement sont tels Et la plupart des décideurs militaires ont aujourd'hui des histoires assez croustillantes qui circulent sur leurs différents trafics. Et donc, ce que veulent les manifestants, c'est le refus de ce qu'ils appellent l'alternance clanique. Ils veulent, une fois pour toutes, la transparence et que les ressources de leur pays ne soient plus dilapidées.
Et oui, parce que vous décrivez, Jean-Pierre Filu, dans l'Algérie, une nouvelle indépendance, un pays qui est, somme toute, ruiné alors qu'il a d'énormes trésors, notamment dans son sous-sol, mais pas uniquement. Un pays qui est ruiné, dont le peuple est, pour ainsi dire, surnuméraire. C'est-à-dire on considère que, finalement, si les décideurs pouvaient décider entre eux sans qu'il y ait un peuple, ça serait mieux pour l'Algérie.
Ah bon, on voit bien, c'est même caricatural, hein. Gaïd Salah, donc le chef d'état-major, en septembre dernier, il annonce que les élections auront lieu avant la fin de l'année, et donc le premier conseil des ministres de l'après-Bouteflika se tient, le parlement, les deux chambres du parlement se réunissent un vendredi, jour de congé, pour permettre que, en quelques jours, les ordres du chef d'état-major soient exécutés et que le président par intérim puisse annoncer des élections au 12 décembre. Et le même chef d'état-major annonce dans la foulée que la participation sera massive. On croit rêver si ce n'était pas aussi grotesque et sinistre.
Les barbus en embuscade, c'est l'un des risques que vous pointez dans votre livre. Là aussi, cela fait partie des scénarios. L'Algérie a eu une période de guerre civile intense avec un risque profond de prise du pouvoir par ces barbus. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, il faut revenir sur les conditions de sortie de la décennie noire, hein, donc ces années 90, où sans doute 200 000 personnes ont perdu la vie avec des milliers de disparus, des horreurs atroces. Et pour sortir de ce traumatisme, ben déjà, les décideurs, donc les militaires qui avaient été aux commandes pendant ces années terribles, plutôt que de s'adresser à un jeune talent, un patriote, eh bien, ils ont regardé dans le rétroviseur et ils ont fait revenir Bouteflika de son exil à Abu Dhabi, où il était depuis 18 ans. Bon, c'était pas vraiment la personnalité qui pouvait incarner le futur, mais il leur convenait. Mais ils ont en même temps mis en place un système d'amnistie et d'amnésie qui a permis à ce qu'on appelait pudiquement les repentis, c'est-à-dire des anciens insurgés islamistes, de se reconvertir, parfois avec profit, d'être littéralement recyclés dans le système. Donc le fait qu'aujourd'hui les islamistes n'apparaissent plus comme une alternative les a beaucoup décrédibilisés. En outre, dans les marches, quand ils sont présents, ils le sont assez discrètement, et chaque fois qu'ils ont voulu organiser des prières collectives, ils ont été littéralement encerclés par un cordon sanitaire des autres manifestants pour qu'ils n'arrivent pas à récupérer le mouvement. Alors ce qui est certain, c'est qu'un des scénarios du régime, s'il veut s'entêter à ne rien concéder, c'est d'agiter l'épouvantail islamiste. Il en a différentes possibilités. Par le passé, il n'a pas hésité à jouer à cette politique du pire. Mais aujourd'hui, le rapport de force dans la société leur est très défavorable, même s'il faudrait se garder de nier leur existence, de nier ce courant qui est important, même si je crois qu'il est minoritaire, voire très minoritaire.
Mais alors comment vous expliquez justement ce basculement? Enfin, si vous considérez qu'il y en a eu un, hein, il y a eu la décennie noire, est-ce que c'est cela qui a vacciné les Algériens de toute prise du pouvoir par les religieux? Parce que on raconte aussi qu'il y a une observance religieuse qui est en forte croissance en Algérie, qu'il y a quasiment aucune femme qui n'est pas voilée dans les rues. Qu'en est-il?
Enfin, dans les marches, les femmes voilées côtoient de manière très fluide les femmes qui ne le sont pas. Donc, il faut voir que tous ces régimes, hein, qu'on a présentés à l'étranger, Bouteflika le premier, comme des garants contre l'islamisme, ont en fait totalement pactisé avec les salafistes pour acheter la paix sociale. La paix sociale, c'était les pétrodollars et les barbus. Et ils leur ont confié des dizaines, voire des centaines de mosquées. Et ce qui est frappant, c'est que dans le mouvement, cette carte blanche qui avait été donnée par le régime aux obscurantistes n'apparaît pas. Et alors que le mouvement est révélateur de tendances très contrastées de la société algérienne, voilée, pas voilée, observant, pas observant, il y a ceux qui sortent de la prière du vendredi pour aller manifester, ceux qui arrivent de chez eux directement, hein, sans être passés par la case mosquée, ceux qui invoquent, je le décris en détail dans le livre, différents éléments structurants de l'islam algérien, hein, pour mener de front à la fois leur identité algérienne et leur pratique islamique. Mais à ce stade, aucun incident, hein, 9 mois, des millions, voire des dizaines de millions de femmes et d'hommes cumulés dans la rue depuis 9 mois, aucun incident à regretter de ce type. C'est quand même impressionnant. Mais il faut rester vigilant. D'ailleurs, les Algériens sont très vigilants.
Et quelle alternance ? Parce que là aussi, Jean-Pierre Fidu, c'est un régime qui était un régime absolu, qui n'organisait pas de discussion et de conversation nationale politique. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'alternative possible, ou en tout cas celle-ci est à construire. Comment imaginer qu'elle puisse, d'ici au 12 décembre, avoir véritablement une assise, avoir des alternatives à offrir en Algérie ?
Son assise est déjà là et elle est extraordinaire. On ne peut pas imaginer organiser et discipliner des millions de personnes sans avoir une crédibilité. Alors aujourd'hui, on est dans la phase où cette crédibilité, cette structure se consolide, mais où en même temps, le régime voudrait forcer l'émergence de telle ou telle tête pour pouvoir immédiatement la couper ou l'emprisonner. C'est-à-dire que tous les noms qui ont été cités comme animateurs de la contestation sont dans leur majorité en prison. Donc, le mouvement doit aussi se protéger. Hein. Il est évident que si on arrive, et ça me paraît le plus sûr, vu le patriotisme partagé des Algériens, à un dialogue enfin effectif, on trouvera très naturellement des interlocuteurs de part et d'autre. Hein. Mais aujourd'hui, la contestation se veut avant tout collégiale, enracinée dans le pays, inscrite dans la durée, dans l'attente de ce déclic qui ne peut venir que d'en haut, d'une ouverture enfin sincère au dialogue.
Jean-Pierre Fidu, Algérie, une nouvelle indépendance. C'est votre livre aux éditions du Seuil, un livre qui évoque la situation de l'Algérie. Aujourd'hui, on va évoquer la situation de l'Algérie d'hier. Nous serons dans quelques instants en compagnie de Jacques Attali, écrivain ou fonctionnaire. Il publie l'année des dupes, Alger 1943. 1943, une date extrêmement importante pour l'Algérie qui explique à la fois la situation de l'Algérie, mais aussi qui, en miroir, donne une lecture de l'histoire française. En attendant, il est 8h sur France Culture. 8h21, on évoque l'Algérie d'aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Fidu, historien arabisant. Vous publiez l'Algérie, une nouvelle indépendance aux éditions du Seuil. Et nous accueillons Jacques Attali. Bonjour, vous êtes écrivain et président de Positif Planète. Et vous publiez l'année des dupes, Alger 1943 chez Fayard. Pourquoi 1943 ? Alors c'est l'année de votre naissance, Jacques Attali. Vous êtes né en Algérie, juif algérien. Quel était le statut des juifs algériens à cette époque ?
Alors, il a beaucoup changé dans les mois qui ont précédé ma naissance, le 1er novembre 1943, puisque les juifs algériens qui avaient été rendus totalement français en 1870 par le décret Crémieux, décret qui a très vite, pratiquement tout de suite, été contesté, ont perdu cette citoyenneté française dès l'arrivée de Pétain au pouvoir. Quand les Américains débarquent à Alger le 8 novembre 1942, débarquement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, dont personne ne parle, parce que c'est un débarquement doublement honteux, puisque les Français ont tiré sur les Américains, et les Américains, une fois arrivés au pouvoir, avec l'aide des Juifs algériens, ont remis au pouvoir les gens de Vichy, et que les gens de Vichy, c'était d'abord Darlan, puis Giraud, avec l'appui américain, ont maintenu le statut des Juifs, qui était un statut donc de non-citoyenneté, et l'ont maintenu très tard, puisque les Juifs ne récupèrent leur citoyenneté française, d'une façon que je considère, et j'essaie de le démontrer dans le livre, comme parfaitement, provisoire, sinon illégale, fin octobre 1943, c'est-à-dire quelques jours avant ma naissance. Je dis provisoire, et d'autant plus que dans le texte qui, soi-disant, rétablit cette citoyenneté française, il est dit que c'est provisoire et que le statut des Juifs indigènes, comme des musulmans indigènes, sera réglé après la libération de la totalité de la France, ce qui ne l'a pas été avant, d'ailleurs, les accords d'Évian, qui ont été le seul moment où la France a véritablement confirmé la citoyenneté française des Juifs algériens.
Le cas de l'Algérie est un cas particulièrement intéressant parce que, à l'époque, donc colonie française, les Juifs y sont particulièrement présents et l'antisémitisme aussi, Jacques Attali.
Oui, alors, il y a un seul mot inexact et très important dans son inexactitude dans votre question, si vous permettez. L'Algérie, colonie française. Non. L'Algérie, département français. Tout part de ce choix assez étrange, qui est que dès 1830, on décide de faire de l'Algérie un département français. Mais pour autant, sans donner à ses habitants les droits des habitants des départements français. Ni les musulmans, ni les juifs ne sont citoyens français. Ils sont citoyens de seconde zone, ils n'ont pas le droit de vote, même s'ils commencent à voter dans les élections municipales, ils ne sont pas citoyens plein et entier. Et la situation à ce moment-là devient une situation très étrange, puisque on est enfermé dans une ambiguïté qui va rester jusqu'à la fin, puisqu'il va falloir même attendre la fin de la guerre d'Algérie pour que le général de Gaulle consente à ce que le président de la République soit élu au suffrage universel, comme s'il ne voulait pas être élu par des voix musulmanes. Et c'est tout l'enjeu de la modernité de cette question, c'est que la question musulmane n'entre dans l'histoire de France que parce que, en 1830, on décide de faire de l'Algérie un département français.
Et oui, parce que tout se passe comme si, dans
qui
votre livre...
Ce n'est pas le
livre,
cas des autres colonies.
Tout se passe comme si, dans votre livre, donc, L'année des dupes, publié chez Fayard, Jacques Attali, il y avait en quelque sorte les prodromes d'une situation avec, d'un côté, donc, une situation d'apartheid vis-à-vis des musulmans, de l'autre, un antisémitisme assez important. Qu'est-ce que ça raconte finalement sur l'évolution de la société française, puisque vous l'avez rappelé, c'était un département français, donc c'était la France.
Voilà, alors ce que ça raconte d'abord, c'est que l'antisémitisme en Algérie était extrêmement violent, plus violent qu'en métropole, au point que, avec d'ailleurs un soutien des juifs par les musulmans, qui ont été absolument impeccables dans cette période. Cela raconte que il était possible d'imaginer une persécution des juifs en l'absence d'allemands, puisqu'il n'y a pas d'allemands en Algérie pendant toute cette période, et pourtant les juifs sont persécutés.
Avec des scènes très très violentes, le grand rabbin décapité.
Alors le grand rabbin décapité, c'est par les Turcs avant du temps de la colonisation, la présence turque. Les Juifs sont persécutés par les Français d'une façon extrêmement violente, toutes les mesures d'expulsion, d'interdiction de métier, même avant qu'elles ne soient décidées en France. On peut même dire d'ailleurs que c'est l'équivalent de l'UNEF, avant que l'UNEF ne soit vraiment créé, d'Alger, qui impose à l'UNEF de France, sous l'occupation, d'interdire aux étudiants juifs de toute la France de ne pas aller, d'être interdits d'école et d'université et de cours. Et au point que ça va jusqu'à la décision, qui n'a pas été appliquée à cause du débarquement américain, de distribuer des étoiles jaunes aux Juifs d'Algérie, fin octobre 1942, jusqu'à la mise en place de camps de concentration, tant pour les prisonniers politiques que pour les Juifs qui sont en place, au moment où les Américains débarquent. Les Américains qui mettent beaucoup, beaucoup de temps, comme les Français, à faire en sorte que tout ça se laisse. Ils mettent en fait un an à peu près, jusqu'à ce que De Gaulle véritablement emporte la victoire. De Gaulle, d'ailleurs, le comportement est assez incertain.
Pourquoi ?
Parce que De Gaulle, quand il prend vraiment le pouvoir à Alger en juillet 1943, ne remet pas en cause l'abrogation du décret Crémieux qu'avait confirmé, réabrogé le général Giraud avec l'appui des Américains, et qu'il faut attendre une très forte pression des Anglais et d'une partie de l'opinion publique américaine assez faible, pour que fin octobre, comme je l'ai dit tout à l'heure, il accepte de rétablir le décret Crémieux, d'une façon, encore une fois, provisoire. Voilà tout ce que ça dit de la société française d'aujourd'hui. Et d'une façon plus générale, ça dit que l'apartheid n'est pas tenable. Quand dans un même pays, vous avez des gens qui n'ont pas le même statut, ça marche pas.
Quelles étaient les relations des Juifs et des musulmans à l'époque
Alors, il y a eu, bien sûr... De pas mal de difficultés au temps de la colonisation turque, puis ensuite plutôt une situation assez correcte, avec un épisode particulièrement tragique en 1934 avec un pogrom à Constantine, mais qui semble être un cas vraiment particulier. Et ensuite, les musulmans étaient très fort soutien des juifs. Pourquoi ? Parce que les musulmans, en fait, voulaient, les musulmans algériens, voulaient être citoyens français plein et entier. Tant Messali Hadj que Ferhat Abbas ne demandaient rien d'autre jusqu'en 1944 et même le début de 1945. Au point que quand le décret Crémieux a été abrogé, on a dit aux musulmans « soutenez-nous ». Disent les Français de Vichy, et les musulmans disent non, nous on veut que nos frères juifs soient français, parce que nous souhaitons l'être aussi. Au point même que Ferhat Abbas, à qui on promet d'être libéré s'il reconnaît et approuve l'abrogation du décret Crémieux, refuse d'être libéré. Donc il y a vraiment une grande fraternité qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de détails de la vie quotidienne que je donne dans le livre, où chacun a soutenu l'autre, où les difficultés des uns sont considérées comme les difficultés des autres.
Jean-Pierre Fidu, est-ce qu'il y a une mémoire de cette Algérie-là, aujourd'hui, dans l'Algérie contemporaine ?
Ah oui, il y a une mémoire très forte. Et puis, il faut voir que le vaste mouvement de contestation populaire qui agite le pays depuis 9 mois s'accompagne d'une volonté de revisiter l'histoire nationale, y compris dans ses pages les plus sombres, et d'une revendication du caractère pluriel de l'identité algérienne dans toutes ses composantes. On voit bien que ce que la France avait instauré en Algérie était un véritable monstre institutionnel, où s'empilaient différentes catégories, des statuts qu'on concédait, qu'on rapportait, et où la même France qui séparait l'Église et l'État en 1905 créait littéralement un islam d'État en Algérie, avec des imams qui étaient payés par la République pour prêcher la soumission. Là encore, le parallèle avec l'islam d'État en Algérie, les mosquées où on veut encourager au loyalisme, si ce n'est à la soumission, il est très fort. Et on a vu d'ailleurs ces dernières semaines, des imams qui essayaient de convaincre les manifestants de ne pas sortir manifester, être rabroués en pleine prière par des manifestants qui ont donc mis leur libre arbitre, leurs aspirations de citoyens, au-dessus de ce que l'islam d'État essayait de leur prêcher.
Jacques Attali.
Oui, il y a un grand continuum, et ce continuum Et là, aujourd'hui, même si, sans doute pourrait-on espérer que l'Algérie soit aussi accueillant pour les anciens habitants juifs et français que le sont le Maroc ou la Tunisie, où il est plus facile aujourd'hui pour un juif marocain de retrouver sa place et sa maison au Maroc ou en Tunisie que ça n'est le cas en Algérie.
Mais vous êtes retourné, vous, en Algérie, voir les lieux...
J'ai quitté l'Algérie en 1956, parce que mon père a tout de suite pensé, bien que sa langue maternelle était l'arabe et qu'il était très favorable à l'indépendance, il a tout de suite pensé que notre avenir, nous, enfants, n'y était plus. Mais je suis retourné plusieurs fois à partir de 1980, d'abord en visite officielle, puis en visite privée, mais jamais en vacances, par exemple.
Et alors, du coup, dans votre identité, est-ce que vous vous considérez, je ne sais pas, algérien, pour partie
algérien ?
Oui, bien
sûr, évidemment, je suis algérien et français. Je suis d'abord, évidemment, un citoyen français, mais on n'oublie jamais le pays de son enfance, le pays de sa naissance. Même si en Algérie, j'étais évidemment français, mais je suis aujourd'hui fait de cette étrange situation où on ne peut pas aisément retourner dans son pays natal, on ne peut pas aisément retourner dans sa ville natale, on n'a plus un accès facile à tout ce qui était son enfance, qui a disparu. Et c'est ainsi, c'est normal, j'en prends acte, mais ça crée quand même une relation au passé assez particulière. C'est pour ça que j'ai voulu raconter ce livre, qui je crois concerne beaucoup plus que ceux qui l'ont vécu proprement dit. Ça dit beaucoup de choses sur les conditions dans lesquelles se crée une violence personnelle et une violence d'État. En effet, dès 1830, dès la mise en place de ce régime très étrange, de citoyens, de sous-citoyens, de sous-hommes, il y avait tout en germe toute la violence qui a suivi, la violence antisémite, la violence anti-musulmane et les revendications et le fait qu'en Algérie se soit accumulé toute une série de gens venant de toute l'Europe, mais qui n'avaient pas de culture des droits de l'homme aussi avancée que certains pouvaient l'espérer, a créé une situation effrayante.
Situation effrayante qui explique aussi la décolonisation et les manières, puisque aujourd'hui en économie institutionnelle, on a tendance à relier la manière dont se déroule une colonisation et la décolonisation. Jacques Attali, qu'en est-il pour l'Algérie, selon vous ?
Oui, tout est lié. Le fait que l'Algérie se soit sentie si mal dans son histoire française qu'elle a choisi de couper avec la quasi-totalité de ses relations avec la France dès 1962, le fait qu'elle ait choisi de trouver des experts venant d'Allemagne de l'Est et du reste du monde, le fait que la France a été longtemps mal ressentie et qu'il y a une sorte de des chardes communes dans les peuples, c'est très très profond. Ça renvoie à la guerre de 1830 qui a continué très longtemps, les massacres que l'armée française a fait en Algérie. Ça renvoie aussi aux relations à cet épisode de si cet épisode de 1942-43 est si important pour moi, c'est qu'il est complètement censuré. On n'en parle jamais. Personne ne célèbre le débarquement du 8 novembre 42. Pourtant, c'est le premier.
Alors, vous l'avez expliqué, vous avez donné la raison pour laquelle, selon vous, on ne le célébrait pas. Était-il important, en quoi
C'est quand même le premier débarquement américain en terre de France. Alors on célèbre évidemment très très bien et justement le débarquement du 6 juin 44, mais on oublie que le premier débarquement en terre de France, c'est le débarquement du 8 novembre 42. Et celui-là fait partie de cette censure très profonde de ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'Algérie et qui dit énormément sur la France d'aujourd'hui.
Jean-Pierre Fidieu.
Il faut rappeler que ce débarquement est précédé par des largages massifs de tracts en arabe, oui, où le président Roosevelt encourage les moudjahidines de la liberté à se soulever pour leurs droits, et que effectivement cette rhétorique sur le djihad, donc encouragée par les États-Unis, va se retrouver 42-43 bien sûr, mais 45.
Exactement.
45, la fracture, hein, la France qui se libère, qui célèbre la victoire contre les nazis et qui au même moment massacre des dizaines de milliers d'Algériens, ce qui ouvrira la voie à la lutte armée et au Front National de Libération qualifiera ces combattants de moudjahidines comme déjà Roosevelt l'avait fait quelques années plus tôt.
Jacques Attali.
Oui, c'est tout à fait ça. Les Américains vont prendre le parti ou tenter de créer les conditions d'une révolte algérienne dès ce moment-là, comme d'ailleurs ils vont le faire en Afghanistan, lançant la révolution contre les soviétiques, et en agissant ainsi, ils créent les conditions de leurs propres ennemis. D'ailleurs, le comportement américain à cette époque est absolument incroyable.
Pourquoi ?
Parce que les Américains n'ont absolument rien à faire de la libération de la France. Ils vont un Américain très important de l'époque, Robert Murphy, le consul général à Alger, un de ses compatriotes, chef des services secrets, qui s'étonne, se révolte contre, s'indigne du traitement qui est fait aux Juifs et aux musulmans, lui dit, écoute, si tu es là pour sauver les Juifs, les musulmans et les communistes, t'as qu'à retourner à Washington. Et il le chasse. Pourquoi ? Parce que les Américains, en fait, n'ont qu'une seule obsession, traverser, passer au plus vite, pour empêcher l'armée allemande d'arriver en Irak pour prendre le pétrole. Tout est une affaire de pétrole, là. Et c'est la seule obsession américaine. Ils n'ont absolument rien à faire de la libération de la France.
L'autre fil est de votre livre, Jacques Attali, L'année des dupes, Alger 1943. C'est l'histoire juive et d'une certaine manière, on songe à un autre de vos livres, 1492, là il est question de l'expulsion des Juifs d'Espagne notamment, et cette date 1943, est-ce qui va suivre, marque aussi la fin de la coexistence entre Juifs et musulmans ?
Oui, j'écris toujours des histoires longues et à deux reprises j'ai écrit une histoire focalisée sur une date, 1492, l'expulsion des Juifs et aussi d'ailleurs le départ des derniers musulmans d'Espagne, et 1943 parce que c'est le début de ce qui va être un divorce, puisque même si les Juifs et les musulmans sont à ce moment-là très proches, les Juifs ont basculé du côté français et ne pas être solidaires, mis à part des exceptions dont je parle longuement dans le livre, de la révolution algérienne. Ils vont choisir d'être français, ils vont d'ailleurs choisir, à la différence des Juifs marocains, de partir en France plutôt qu'en Israël, parce qu'ils sont citoyens français plein et entier, ce qui n'est pas le cas des Juifs marocains. Donc ça crée une rupture, enfin, disons une distance, mais qui n'est pas une véritable rupture. On peut pas dire qu'il y a une rupture qui s'est faite. Mais c'est vrai que ça marque une distance. Les Juifs algériens sont français et choisissent la France, ce qui n'est pas le cas ailleurs.
C'est ce qui veut dire aussi que cette coexistence millénaire, elle s'achève.
Elle s'achève, alors qui est responsable, on n'en saura jamais rien, mais elle s'achève dès 1947-48, certains des révoltés algériens appellent les juifs à être solidaires, certains juifs vont l'être, certains d'autres vont pas l'être. À ce moment-là, dès 1954, le début de la révolution algérienne, il y aura des attentats spécifiquement ciblés contre les juifs d'Algérie, et l'engrenage de la violence part dans cette terrible direction.
Jean-Pierre Filius, là aussi, c'est une mémoire à conserver. Alors, il reste un peu de vie juive en Tunisie, mais c'est quelque chose de très limité par rapport à ce que cela fut. Vous qui êtes un spécialiste du monde arabe, est-ce qu'il y a un caractère réversible à cela ?
Réversible en termes de population, je ne le crois pas trop. En revanche, il y a la nécessité, et elle est, j'insiste, au cœur des aspirations du Hirak, donc de cette contestation algérienne, d'accepter l'identité algérienne dans toutes ses composantes, et de s'opposer à un régime monolithique qui a voulu imposer une identité monolithique, et d'accepter qu'en Algérie, eh bien, on peut être ceci, cela et cela, et qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les différents niveaux de cette identité. Je crois que ça, c'est très important, et évidemment, on voit que une ouverture démocratique s'accompagnerait aussi d'une ouverture des mentalités, d'une acceptation de cette différence, à la fois dans le passé de l'Algérie et dans la réalité des convictions des Algériennes et des Algériens.
Jacques Attali, entre donc cette année 1943 que vous racontez dans l'année des dupes et la situation de l'Algérie aujourd'hui avec les élections du 12 décembre, quel regard portez-vous sur le futur de l'Algérie ?
Ben, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui manifestent, beaucoup d'espoir dans l'Algérie. Nous avons tous, nous en France, comme en Algérie, intérêt à ce que l'Algérie devienne une démocratie vibrante, vivante, institutionnelle, stable. L'Algérie est un grand pays avec un potentiel gigantesque. Nous avons tout à fait ensemble. Et donc, beaucoup d'espoirs sont portés là. Et imaginez simplement si cette révolution était conduit à l'échec, ça entraînerait un tel désespoir que tout devient impossible. Donc il faut absolument que cette révolution réussisse. Et en même temps, ça renvoie plus généralement à la relation entre la France et le Maghreb, à cette mer Méditerranée qui est si particulière, à l'Afrique aussi plus généralement, qui sera bientôt peuplée de 2 milliards de personnes. Nous, en Europe, nous avons intérêt à ce que que l'Afrique devienne une démocratie, un ensemble de démocraties stables avec lesquelles nous pourrions échanger mieux, plutôt qu'une terre de chaos comme c'est parfois le cas.
Pourquoi ce qui n'a pas fonctionné en Syrie, en Égypte, pourrait aujourd'hui fonctionner en Algérie, Jacques Attali ?
Ça n'a pas forcément non plus mal fonctionné pour l'instant. En tout cas, la bataille n'est pas terminée en Tunisie, où la révolution a commencé et est en train de s'installer d'une façon chaotique, mais qui reste pleine d'espoir. Et l'Algérie commence ce parcours. Donc nous avons tous intérêt, sans nous en mêler, parce que les Algériens sont très sourcilleux, il ne faut pas sourciller, mais nous avons tous intérêt à ce que cette révolution réussisse, à ce qu'une nouvelle élite apparaisse, qu'elle prenne la direction du pays, que même beaucoup d'Algériens de haut niveau, qui sont un peu partout à travers le monde, trouvent de leur intérêt à revenir construire leur pays. C'est notre intérêt à tous.
Jean-Pierre Filius, qu'est-ce qu'il faut observer d'ici au 12 décembre avec donc ces élections qui vont prendre place ?
D'abord, on constatera, et je crois sans trop me tromper, qu'il n'y aura pas de vraie campagne présidentielle, vu que la plupart des 5 candidats sont houspillés, chahutés chaque fois qu'ils montent le bout de leur nez. On peut craindre des déclarations de plus en plus martiales du chef d'état-major des armées, véritable maître du pays, Ahmed Gaïd Salah. Et puis le 12 décembre, ne pas être surpris par une abstention massive qui ne concernerait pas que la Kabylie, mais des zones entières du pays, ce qui démontrera que ces élections pour rien, au fond, n'ont fait que retarder le moment où le régime devra enfin accepter un dialogue authentique avec une opposition responsable et citoyenne.
Avec la crainte de la violence, parce que vous racontez dans votre livre, Jacques Attali, aussi l'histoire de la violence en Algérie, la violence de la colonisation, mais pas que. On se souvient de la décennie noire, ce qui veut dire qu'il y a peut-être aussi une présence de la violence particulière dans l'histoire algérienne.
Dans toute situation de ce genre, il y a, la violence s'emballe, en particulier quand on regarde tout au long de cette histoire. Il n'y avait aucune raison que les Français d'Algérie deviennent les monstres qu'ils ont été dans les années 60, soit 59, 60, 61, 62, dans l'engrenage de l'OS. C'est cet engrenage-là qui, moi, m'a fait comprendre, je n'étais plus en Algérie à ce moment-là, que toute personne placée dans une situation particulière peut devenir un monstre. Ce qui m'a d'ailleurs fait comprendre cela aussi pour le peuple allemand. Toute personne placée dans une situation particulière peut devenir un monstre. Et il faut créer les conditions pour que ça n'ait pas lieu. L'Algérie a été une sorte de laboratoire martyr où toute personne, beaucoup de gens sont devenus des monstres.
Et puis, l'autre aspect de votre histoire, c'est la manière dont la France a traité les musulmans en Algérie et qui explique peut-être, selon vous, en partie, en tout cas, la question du rapport de la France avec cette minorité musulmane.
Oui, bien sûr. Dès le moment où la France décide de faire de l'Algérie des départements français sans donner des droits, il se place une situation où les musulmans sont en situation de sous-hommes. Les juifs y échappent, puis ils reviennent, ils y échappent, mais les musulmans restent des sous-hommes. Ils sont en même temps, à partir du début du XXe siècle, admis en France comme travailleurs dans des conditions évidemment très exploitées. Et cette situation reste. Et ça renvoie à cette question fondatrice dont l'Algérie est un exemple, mais qui est valable dans beaucoup d'autres endroits, un apartheid n'est pas durable. Quand une majorité est maltraitée, elle finit par l'emporter. Et cet exemple algérien est valable dans beaucoup d'autres endroits du monde, et il est valable en France, où nous avons des gens qui sont pour le moins délaissés, qui sont les habitants des quartiers comme les habitants des campagnes. À un moment, les délaissés finissent par ne pas accepter leur apartheid. C'est ça la leçon de l'Algérie.
Jean-Pierre Filiu, Algérie, une nouvelle indépendance aux éditions du Seuil, et Jacques Attali, l'année des dupes, Alger 1943 chez Fayard.